Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Check, check, mic check, 1, 2.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Après, c'est pas un gros risque dans le sens où je le fais, si ça marche pas, j'ai toujours... ce que j'ai déjà créé en France et dans les pays francophones et parmi les expats français où si je fais un quatrième spectacle bilingue, personne va dire « Oh, mais tu nous as dit que c'était le dernier !» Après, le quatrième, si j'en fais un, parce que j'ai raté mon coup en anglais...
Ça serait une bonne histoire à raconter.
Hein. Exactement. ça crée l'histoire de comment je me suis ramassé la gueule dans mon propre pays et ça n'a pas marché.
Dans ce nouvel épisode, je reçois Paul Taylor, humoriste britannico-irlandais que vous avez peut-être découvert dans What the Fuck France, What's Up France ou dans des vidéos montreux. Ces dernières années, il a tourné dans plus de 20 pays avec ses 3 spectacles bilingues français-anglais et il est passé par Bruxelles il y a quelques jours. Je suis allée voir le dernier show, Bisou Bye, dont il terminera la tournée au Zénith de Paris le 6 janvier. Le lendemain du show, on a fait un foot ensemble. Ça sert à rien de le préciser, mais franchement, ça fait toujours plaisir. Et puis, on s'est posé chez moi pour parler de plein truc, du fait qu'après Bisou Bye, il ne fera plus de spectacle bilingue puisqu'il compte se lancer juste en anglais parce que le niveau du stand-up anglophone est plus élevé et Paul a envie de progresser. On a aussi parlé d'alcool qu'il ne boit plus parce que ça posait trop de problèmes dans sa vie, de comment il a été impacté par le décès de Steve Jobs et de la reine d'Angleterre et du fait que quand il était petit, il voulait devenir catcheur. J'espère que ça vous plaira.
T'as le serpent gigantesque.
Ouais, je l'ai gagné à la foire.
En jouant à quoi ?
Je balançais des petits cerceaux autour de bouteilles de coca.
Ah ouais ?
Je visais l'iPhone, j'ai eu le gros serpent.
Ah ouais, mais c'est pas une arnaque ces trucs-là ?
Ah si, si.
Genre où c'est impossible de gagner un truc, c'est quand même
et
balèze.
Je savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. Ouais, ouais. Écoute, c'est vraiment, je pense, 10 balles bien investies, mais bon.
Ouais.
Alright, pour le son, c'est bon. Comment ça va ?
Ça va très bien. Je suis crevé, mais ça va. Avec les 4 heures de sommeil, là, et le match de foot, ça va super, à part ça, ouais.
En plus, t'enchaînes ce soir, là ?
Ouais, là, on part à Lille. Et souvent, ça se passe bien. Donc, je crois que je vais être emporté par l'énergie du public. Mais je vais pouvoir dormir un petit peu, je crois, à l'hôtel en arrivant. On arrive vers 16 heures. Donc, si j'arrive à dormir, j'ai du mal à je sais pas si ça arrive à faire des siestes, toi, dans la journée.
Ah, moi, vraiment, oui.
Ouais.
J'en fais des immenses. Ouais, ouais, ouais.
Ah, oh, j'aimerais trop. Je sais pas. Mon cerveau, il est en surexcitation tout le temps et ça m'énerve. J'arrive pas à. Je sais pas. J'arrive pas à trouver un truc qui me calme. Soit je suis en train de penser à je sais pas. Il bouge. J'ai du mal à dormir le soir. Je m'endors. Ça prend genre 1h30 pour m'endormir le soir. Et souvent, c'est pas avant 3h du mat. Et je crois que c'est aussi lié maintenant au fait que la vie de famille, bah du coup, mon cerveau, il est jamais en pause jusqu'à que tout le monde s'endort. Et du coup, là, les idées, elles viennent et c'est comme sous la douche. J'ai souvent des idées sous la douche. Et donc, ouais, je crois que mon cerveau, il est, je sais pas, je dois avoir un problème, mais je sais pas, j'ai jamais été voir quelqu'un, en vrai. Je devrais aller voir quelqu'un, mais ouais. Donc, je vais essayer de faire une sieste tout à l'heure.
Et puis t'as donc le Zénith dans un mois.
Ouais, ça c'est cool. Il faut le remplir, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a un mois.
Attends, là pour situer, donc on enregistre le 16 décembre.
Ouais.
Donc
Ça va sortir dans pas très, ouais, dans 5-6 jours, à mon avis.
Ok.
Du coup, tu joues au Zénith le
6 janvier.
6 janvier. Et il y a un mois, tu étais en panique.
Il y a un mois, on était en panique parce qu'on a, en fait, on a ouvert la billetterie en avril. Le 1er avril, qui était ma dernière date à Paris. Donc, on s'est dit, on finit la dernière date et puis on annonce le Zénith, genre dans 9 mois. Et en 8 mois, je crois qu'il y avait 2000 billets sur les 4000. Donc, c'était la moitié. Il restait la moitié avec un mois qui reste. Après, il y a Noël et tout ça, donc ça aide. Mais à chaque fois, c'est la même chose où les top 5 médias... en France, ils veulent pas, ils sont pas intéressés. On a essayé pour le deuxième spectacle, pour le premier et celui-là, et ils sont, je sais pas, ils m'aiment pas. Il y a un truc qui veulent pas, et c'est dur parce que du coup, bah là, pour un Zénith, normalement, tu fais un peu une tournée de médias au moins pour annoncer le truc. Et surtout cette année, on a fait une tournée un peu mondiale où on a fait 20 pays différents. Donc on s'est dit, il y a un truc à raconter au moins, que c'est comme c'est un spectacle. Oui, il y a de l'anglais dedans, mais c'est pour les francophones en vrai. Quand je pars en Australie et au Canada et aux États-Unis, et de raconter tout ça, et on termine au Zénith. Mais je sais pas, on n'a pas eu de chance avec ça. Donc j'étais en mode panique totale sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, aidez-moi à remplir la salle, partagez. Et je l'ai mis en mode fuck the system. Qui fonctionne assez bien du coup, donc ça, la première vidéo a été partagée plein de fois et ça a beaucoup aidé. Donc là on a aujourd'hui, il restait 678 billets.
Ouais, donc ce sera complet d'ici là.
Ouais, ça sera pas complet parce que les Zénith, je crois que c'est jamais vraiment complet sauf si t'es Paul Mirabel, mais t'as toujours des places, hein, parce qu'il y a plein de places individuelles, parce que souvent il y a des rangées où il y a 5 places.
Ah ouais,
et
ouais.
Donc les gens, ils achètent 2 et 2, et celui du milieu, il est vide. Donc je crois qu'il y aura, à mon avis, à 100, à mon avis, il y aura 100 places dispo à la fin, qui sont tous individuelles.
Sous-estime pas mon public de losers qui vont tout seuls.
Ouais, honnêtement, et c'est drôle que tu dis ça, parce que en fait, j'attire des gens comme ça.
Ah ouais, putain, moi aussi.
Parce que je crois que je suis un peu comme ça aussi. Si j'avais pas été à l'université, si j'avais pas eu mon boulot chez Apple et j'étais pas devenu humoriste, je serais un peu solitaire à jouer des jeux vidéo, à être extrêmement geek. Mais ça, ma vie, elle est partie dans un autre chemin. Mais je crois que je dois dégager ce truc-là de geek un peu seul. Et donc, du coup, j'attire. Je sais pas si tu trouves que des fois le public, c'est comme les chiens et leur maître.
Ouais, t'attires ce que tu dégages, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, de ouf.
Donc oui, c'est vrai. Et en plus, il y avait quelqu'un, on était à Liège avant-hier, et il y avait une fille qui me taguait dans ses stories. Elle était venue toute seule, c'était son cadeau de Noël ou anniversaire à elle-même et tout ça. Elle avait adoré, donc c'était cool. Je trouve ça cool en vrai d'aller voir des spectacles seul, quand t'es seul et t'as personne. En fait, ça te donne une communion, non, ça se dit pas ça.
Ouais, si, je vois, c'est différent. Tu ressens les choses différemment. T'es pas. Je trouve qu'il y a moins de retenue aussi.
Ouais.
T'es
anonyme, mais avec 300 personnes qui rigolent en même temps.
Ouais.
Et donc, du coup, tu peux retrouver un peu un truc de communauté. C'est ça que je cherchais.
Secte. De secte, c'est ça.
C'est ça, de secte, de religion. Ouais, mais des fois, ça peut être un peu. Je trouve que maintenant, le truc avec les réseaux sociaux, c'est que limite, ça devient un peu ça. Nous, sur scène, on trouve notre niche et notre public, qu'à une époque, pour remplir des grandes salles, t'étais obligé d'être connu par tout le monde. Gad, Florence, tu fais l'Olympia, t'es forcément à la télé, t'es forcément connu. Et maintenant, il y a des gens qui peuvent remplir 4 Olympias.
Putain, il y a des dingueries, genre en rap. Moi, il y a des gens, je sais pas, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ils se font des zéniths, je suis là, mais quoi?
Ouais.
Et c'est énorme, quoi.
Ouais. Et donc, c'est l'avantage. C'est vraiment cool en ce moment parce que en fait tu peux être n'importe qui comme artiste, comme humoriste, musicien, et trouver ta niche un peu partout dans le monde, parce que c'est global. Lorsqu'à l'époque, si t'avais un truc un peu bizarre, bah tu trouvais les gens qui habitaient à côté de toi, qui avaient le même amour pour je sais pas, les aquariums. Tu vois, si t'es un fan d'aquariums, apparemment il y a un gars sur YouTube qui cartonne avec des aquariums. Tu sais, il a une communauté énorme, il fait des reviews des aquariums.
Oh, wow.
Et ça cartonne. Et donc lui, il a trouvé sa niche, et après il a plein de followers, parce qu'il y a plein de, mais dans son village ou dans sa ville, bah il aurait été un peu tout seul à faire ça. Donc je trouve ça assez cool.
Toi, t'as, attends, comment dire, je pense que ça doit être compliqué quand tu fais un show en deux langues, justement, de trouver ce public qui va déjà être capable de comprendre. Mm-hmm. Et surtout, genre, quand tu démarres, toi, quand tu as démarré en France,
ouais.
Tu jouais déjà dans les deux langues ou tu jouais que en français des sketchs
Je jouais que en anglais au début. Ma première scène, c'était sur la scène de Seb Marx, qui faisait le New York Comedy Night in Paris. Et donc, j'ai commencé en anglais. C'était ma première scène en anglais et je crois que j'en avais fait 2-3 en anglais. Et comme c'était au Sceaux Gymnase, je sais pas si t'as connu cette salle,
non.
C'était donc Théâtre du Gymnase à Paris, dans le grenier, 4e étage, il y avait une salle qui était un peu en longueur, ça tenait à peu près 50 places. Et c'est là où tous les spectacles anglophones se passaient. Enfin, Seb, il faisait son heure là-bas, son spectacle, il faisait... Je crois qu'il faisait genre son spectacle en anglais le vendredi, celui en français le samedi, et après celui en anglais. Je crois qu'il faisait son plateau après ça.
Ah ouais, d'accord.
Donc j'avais fait ce plateau-là, et puis comme ils organisaient aussi des scènes en français là-bas, j'ai demandé au gars qui gérait la salle si je pouvais et tenter en français, donc il m'a dit oui, et c'était ma première scène en français là. Et ensuite il y avait Soon qui organisait The Underground Comedy Club dans une autre cave, et donc c'est comme le réseautage à chaque fois où tu fais une scène, il y a quelqu'un qui organise une autre scène, et puis c'est parti comme ça. Et en vrai j'ai commencé à faire les deux en même temps, mais j'ai très vite arrêté le français parce que j'arrivais pas, ça marchait pas, j'arrivais pas à trouver, j'étais pas assez confortable en français sur scène, et surtout j'arrivais pas à justifier que je suis anglais, mais j'arrivais pas
à... Oui, parce que ton accent était trop bon et donc les gens...
Ouais, c'est ça. Et donc en fait je faisais un peu la même chose en anglais et en français, dans le sens où ma vie en France d'expat, j'observe des trucs qui étaient différents, mais avec mon accent ça passait pas, en fait, avec le public. Déjà on était devant 12 personnes, donc c'était un peu compliqué déjà, et donc ça me démoralisait, parce que dans la même soirée je pouvais faire une scène anglaise qui se passait hyper bien et une scène française et qui était nulle, et c'était compliqué de gérer ça, et donc j'ai arrêté en français pendant un an et demi. Et là où vraiment j'ai recommencé, c'est quand j'ai quitté mon boulot, où je me suis dit, il faut que je me lance à 100% dans le truc. Et donc je faisais des scènes françaises à côté, quand on me demandait, en fait. Moi, j'allais pas chercher les scènes françaises. Et comme quand je bossais chez Apple, j'avais la chance de voyager un peu partout dans le monde. Je faisais beaucoup de scènes ouvertes aux États-Unis, mais dans des coins paumés, genre à Manchester, New Hampshire, parce que je faisais une formation là-bas, j'ai tapé scène ouverte, et du coup je faisais des scènes ouvertes plus en anglais qu'en français. Et après, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai vraiment, enfin, ça a basculé où je faisais beaucoup plus de français qu'anglais, parce qu'il y a pas beaucoup de scènes en anglais à Paris.
Ouais, t'as vite fait le tour.
Ouais.
Déjà aussi, c'est une dinguerie que la plupart des gens qui vont voir des scènes anglophones à Paris sont en fait des Français.
Ouais.
Et ça n'a aucun sens, en vrai.
Ça n'a aucun sens. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a énormément d'expats anglophones à Paris. Mais je sais pas, ils sortent pas forcément voir les scènes de stand-up. Ils viennent voir les spectacles. Genre moi ou Seb Marx, quand c'est un spectacle, ou s'il y a Ricky Gervais qui passe, ou un autre humoriste connu. Mais les plateaux, ils viennent pas trop voir ça. Je sais pas pourquoi. En vrai, je crois que c'est juste parce qu'on n'est pas assez bon. Entre guillemets, par rapport à ce qu'eux, ils ont l'habitude de voir à la maison. Tu vois, en Angleterre, aux États-Unis, la qualité du stand-up, elle est incroyable. Comparée à nous, anglophones, à Paris. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il nous manque de l'expérience. Et aussi, forcément, comme on est genre 10... À faire ça, bah on est 3 à faire ça à temps plein. En vrai, il y a moi, Seb et Sarah Donnelly. Sarah, je sais pas si tu l'as déjà rencontrée.
J'ai déjà vu le nom passer, mais
elle est blonde américaine. Elle surjoue le côté oh my god, I'm from America. C'est très drôle. Mais donc on est 3 à faire ça à temps plein, et les autres ils ont d'autres boulots à côté. Et je crois que la scène anglaise doit avoir 30 personnes, parce qu'il y a plein de petites scènes maintenant que j'ai pas fait depuis longtemps. Mais ouais, je crois que je sais pas, c'est beaucoup de francophones qui viennent voir, je crois, parce qu'ils veulent avoir l'expérience de voir du stand-up en anglais, ou un truc en anglais mais en live.
Mais toi, donc là j'ai vu ton nouveau spectacle hier, et tu racontes notamment que c'est ton dernier show bilingue. Tu vas jouer que en français ou que en anglais, et là t'avais l'air de dire que ça partait plus sur de l'anglais d'abord.
Ouais.
pourquoi. Enfin, moi, je trouve que c'est la pire idée parce que c'est tellement flippant, en vrai, de jouer en anglais, parce que justement, le niveau est tellement incroyable que tu peux pas être juste bon.
Non. Et mais c'est pour ça, parce que pour moi, j'ai entre guillemets, j'ai besoin. En fait, j'ai envie de m'améliorer, et je pense que la seule façon de m'améliorer, c'est dans ma langue maternelle. Dans un endroit où j'ai pas de plus-value, entre guillemets, ma plus-value en France, c'est je suis anglais, donc j'ai un regard un peu différent. Comme le spectacle, il est bilingue, c'était aussi un truc unique.
Oui,
donc
c'est un peu un joker.
Un petit peu, ouais. Mm. Et je suis entièrement conscient de ça. Je sais, c'est comme une béquille. C'est comme. C'est vraiment une. C'était pas fait exprès, mais c'est juste bon, j'ai trouvé mon truc et ça a bien marché. Mais j'ai envie d'être une personne lambda, un autre connard de blanc hétéro, homme de genre trentenaire qui fait des blagues parmi les centaines là-bas, pour essayer de m'améliorer dans mon écriture et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on devient les humains, on est un peu feignants, on va vers la facilité. Mmh. Même depuis tout petit, je vois ça avec ma fille qui me parle en français. Parce que elle est feignante, elle a pas envie de me parler en anglais parce qu'elle sait que je parle français. Mmh. Et pour elle, c'est compliqué de parler en anglais. Donc, moi j'écris des trucs, je les teste et ça fait rigoler, donc je me dis pas est-ce que je peux améliorer la, enfin, et au fur et à mesure du spectacle et de la tournée j'améliore des petits trucs, mais des fois je les améliore et puis ça marche pas parce que le niveau de compréhension, il y a un truc qui marche pas, je sais pas pourquoi, et donc du coup j'ai envie de faire ce truc de où je suis totalement un inconnu et un peu recommencer et puis voir si en vrai je vaux quelque chose en anglais dans ma langue maternelle, quoi.
Mais donc tu vas roder à Paris ou tu vas aller direct ailleurs?
Non, je vais les trucs en anglais, je vais peut-être les faire de temps en temps en France. Mmh. Mais le truc c'est que j'ai envie de tester des trucs dans ma langue maternelle avec des gens qui parlent ma langue maternelle d'une façon maternelle.
Mieux que des Français.
Mieux que les Français, mieux que même par tous. En fait, ce que je racontais hier dans le spectacle, le truc de jeu de mots qui fonctionne pas, en fait, il y a un truc qui marche. Mais même des trucs cons, hein. Je te donne un exemple de mon deuxième spectacle où je faisais une blague où, en gros, je disais je suis devenu papa, et puis elle est chiante, elle râle toute la journée, et j'imitais genre waouh, 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 elle râle, et ça, c'est juste ma femme. Et ça faisait rire énormément en français, mais au début, je le faisais en anglais. Je disais I had a baby, and it's all day, it's complaining, waouh, 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 and that's just my wife. Ça marchait jamais. Et c'est la même blague, mot pour mot. Mm. Et il y avait un truc de. Je sais pas ce que c'était, parce que c'est pas qu'ils ont pas compris les mots, parce que c'est facile, c'est des mots faciles comparés au reste du spectacle où ça rigolait dans des parties anglais, mais je sais pas si c'était la construction de la blague en anglais qui faisait une étape de plus dans ton cerveau qui fonctionne, et donc du coup je l'ai fait que en français, ce truc là et donc c'est pour ça que je me dis que j'ai envie de faire ça dans des pays anglophones ou des pays où le niveau d'anglais il est vraiment élevé, genre l'Allemagne, les Pays-Bas ou le nord de l'Europe, juste pour voir. Après, évidemment, parce que le truc c'est que après le risque c'est si je construis entre guillemets un spectacle dans ces pays là peut-être que l'anglais il est trop élevé pour venir le jouer en France. Donc c'est un peu un dilemme, mais si tu veux, je suis dans ce truc depuis 7 ans de faire des spectacles bilingues. J'aurais pu faire un quatrième, un cinquième, un sixième, mais je voulais tenter un nouveau truc et juste voir ce que ça donne dans les pays anglophones aussi.
Putain, c'est fou, c'est tellement risqué, je trouve. En fait, on dirait qu'à chaque fois que t'as débloqué un niveau où genre tu prends un risque, puis une fois que t'as débloqué le niveau, tu fais tu sais quoi, je veux plus dur.
Ouais, oui, je sais pas. Ouais, c'était un peu le. Après, c'est pas un gros risque dans le sens où je le fais, si ça marche pas, j'ai toujours ce que j'ai déjà créé en France et dans les pays francophones et parmi les expats français, ou si je fais un quatrième spectacle bilingue, personne va dire oh, mais tu nous as dit que c'était le dernier. Après, le quatrième, si j'en fais un, parce que j'ai raté mon coup en anglais.
Ça serait une bonne histoire à raconter. Hein.
Exactement. ça crée le l'histoire de comment je me suis ramassé la gueule dans mon propre pays et ça a pas marché. Donc ouais, je sais pas exactement. J'y ai pas trop pensé non plus parce que j'arrive pas. Je sais pas si c'était pareil, mais quand j'arrive pas à penser à des nouvelles choses qui m'excitent, parce que sinon ce que je fais actuellement, sinon, je m'ennuie
chiant.
En fait.
Ouais, c'est sûr.
Et donc j'ai essayé pas trop de penser à ça. Là il reste 3 spectacles Donc ça commence maintenant à mouliner un peu.
Et j'ai l'impression qu'elle était courte ta tournée pour celui-ci justement.
C'était un an quasiment pile jour pour jour. On a commencé le 4 janvier et ça finit le 6 janvier.
Ah ouais, donc c'est vachement court.
Ouais. Ouais. Ouais, en fait, je voulais faire un spectacle pendant un an. Je voulais, le deuxième, je voulais qu'il dure un an. Mais avec Covid et tous les reports et tout ça, on peut pas annuler parce que ça coûte de l'argent, donc il fallait reporter. Donc ça a duré 3 ans aussi, le deuxième, comme le premier. Et je voulais voir ce que ça donne de faire un an. Un peu comme les Anglais ou les Américains qui préparent, enfin, surtout les Anglais, qui préparent le Festival d'Édimbourg tous les ans. Ils font un nouveau spectacle à Édimbourg et ensuite ils le rodent à Édimbourg pendant un mois. Et ensuite ils font la tournée jusqu'à, je crois, mai, juin. Et ensuite, ils commencent à construire le nouveau spectacle pour un mois à Édimbourg. Ils font ça tous les ans. Et je voulais voir ce que ça donnait sur un an. Mais j'ai fait autant de dates dans cette année que
sur trois ans
des deux premiers spectacles. Donc, c'était un peu trop intense en termes
de rythme.
Mais je sais pas si c'est lié au temps ou le combien de fois tu le joues, mais j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je le joue et que les trucs que je raconte dedans on sont déjà périmés en fait.
Tu grandis si vite.
Mais c'est un peu le truc chiant avec notre métier, c'est que c'est un cliché, pas un cliché, un, comment tu dis ça, une image fixe de notre vie à un moment.
Un instantané.
Ouais, mais qui est tout de suite dans le passé. Donc on vit dans le passé tout le temps parce qu'on est en train de raconter des trucs qui se sont passés ou notre point de vue sur la vie, mais de même si c'est 24 heures, c'est 24 heures et des fois, surtout les humoristes qui parlent de l'actualité, c'est périmé tout de suite et du coup tu te sens...
J'en peux plus là, les gens qui font encore des blagues sur le confinement où tu dis, frère, mais pense à mourir éventuellement, c'est terrible ça. C'est... Ah non, ça me...
Vous vous souvenez des masques?
Oh non. S'il vous plaît quoi. Ouais, non. Tantôt, tu disais que donc là, tu avais envie de t'améliorer. Comment on s'améliore quand on fait ça depuis 7 ans et qu'on a déjà fait 3 spectacles, tu vois? Parce qu'en général, après 3 spectacles, t'es un peu dans tes réflexes, tu te laisses aller, machin. Et...
Bah, non, là, pour les. Je sais, j'ai pas la réponse, mais ce que j'ai essayé de faire pour les. Déjà, le premier, j'ai essayé d'être drôle. C'était ça le but quand tu commences et tu te lances. Déjà, c'est d'être drôle sur 10 minutes et ensuite de construire un truc qui est drôle. Sur le deuxième, je voulais améliorer un peu le storytelling, de pouvoir raconter une histoire un peu plus longue et pas chercher une blague toutes les 5 secondes. Donc, je travaillais une histoire qui est arrivée et ça, je crois qu'elle durait 7-8 minutes, l'histoire, et ça marchait bien. Donc, j'ai travaillé ce muscle-là. Sur celui-là, je voulais essayer d'être encore plus à l'aise avec du silence et d'avoir un moment dans le spectacle qui est un peu plus sérieux et moins drôle avec des blagues à la fin. La partie où je parle du fait que j'ai arrêté de boire de l'alcool et j'ai arrêté de faire la fête parce que j'allais me divorcer, puis c'était compliqué, puis la reine qui décède, un peu tout ça en même temps. Mais j'ai du mal à pas trouver une blague et pas chercher le truc. Parce que j'ai peur que ça devienne comme un TED Talk.
Ouais.
Et j'aime... Mais en vrai, j'ai regardé un de mes humoristes qui est devenu un des humoristes préférés, c'est Mike Birbiglia. Je sais pas si tu vois qui c'est.
Oui, il a des choses sur Netflix, il me semble.
Ouais, il en a un nouveau qui vient de sortir. Le premier que j'ai vu, ça s'appelait The New One. Je m'en rappelle plus. Bref, c'était par rapport à la parentalité. Il a joué ça à Broadway. Mais c'était pas plus théâtral, mais il a un micro-casque déjà. Mais c'est du stand-up, mais c'est, il y a vraiment des moments très drôles, touchants. Il y a des moments où pendant 3 minutes, il y a aucun rire et il parle très lentement. Et ça m'a inspiré un peu parce qu'à la fin du spectacle, tu sors avec un truc plus que genre j'ai bien rigolé, tu sais. C'est genre, waouh, c'était profond ou c'était touchant, tu vois. Et j'aimerais bien arriver à un truc comme ça, mais je suis pas encore là. Donc, déjà, en fait, en recommençant, c'est d'écrire des meilleures blagues. Peut-être pas aller à la facilité, parce que dans le monde anglophone, ils ont tout entendu déjà 50 000 fois toutes les blagues.
Tu peux pas leur faire à l'envers. Hein.
C'est ça, ouais. Et le public est plus exigeant parce que c'est un public habitué de Comedy Club qui entendent les mêmes blagues tout le temps. Donc, si t'as une blague qui est un peu facile, ils te laissent pas... Enfin, surtout en Angleterre, il y a des vrais... Je sais pas le mot, le heckler, je sais pas comment on dit ça en français, les les intervenants quoi, les gens qui gueulent,
qui te
ouais exactement. Mm. C'était pas drôle, c'est genre you're not funny, fuck off mate.
Et c'est terrible ça.
Ouais, c'est j'ai été dans des comedy clubs à Londres en tant que spectateur et c'est ouais, je suis pas sûr que je suis prêt pour ça, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de ça juste pour me dire OK, je sais gérer, je sais pas, c'est peut-être un autre muscle ou c'est peut-être juste con, je sais pas.
Moi j'ai trouvé ça vachement intéressant cette partie sur l'alcool et tout. Mmh. Et surtout j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que tu dis où je crois que c'est dur de les admettre. Tu vois, genre un moment par exemple tu parles de ta fille et tu dis que quand elle est née c'était les deux pires années de ta vie.
Ouais.
Et je pense qu'énormément de gens le ressentent, mais de là à le dire.
Ouais.
Je sais pas, moi j'aime bien entendre des choses.
Ouais,
comme ça.
Et ces moments-là, c'est souvent les messages que je reçois après sur Insta ou Facebook où les gens ils me racontent leur vie un peu en mode merci d'en parler parce que on n'en entend pas souvent parler tout ça. Je crois que le plus dur pour ce truc-là, c'est peut-être plus tard quand la petite elle va grandir et elle va regarder mon travail d'il y a 18 ans. J'ai pas envie, mais ça, je lui dirais avant qu'elle regarde tout ça, je lui dirais que c'est pas vrai, mais c'est je lui expliquerai.
C'est caricaturé, quoi.
Ouais, c'est caricaturé, et puis aussi que c'est une vérité, en fait, parce qu'à un moment donné, elle va grandir, et peut-être qu'elle va voir des enfants un jour, et puis nous, ce qui nous a manqué, entre guillemets, mais c'est comme tous les parents, c'est juste d'avoir des vraies histoires, des vrais gens qui ont vécu de la merde, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce tabou, que ça soit autour de l'alcool ou autour de plein de choses dans la vie, que tu peux pas admettre certaines choses, où t'es obligé d'être genre non, tout va bien, je gère, je suis une femme qui a un enfant et je travaille et je gère, et t'as pas le droit de montrer, surtout les femmes, c'est compliqué pour vous, parce qu'il y a cette pression sociale de faut continuer à travailler parce que voilà, c'est pas, on est égaux et tout le truc, et je crois que c'est dur parce que, en vrai, en tout cas, moi, ma femme, elle a eu cette envie maternelle qui est vraiment biologiquement, il y a un truc qui s'est passé dans elle, où elle est devenue beaucoup plus maternelle. On travaille ensemble, donc, elle a la chance de pouvoir travailler à la maison, et elle, ça lui va très bien. Elle avait pas envie de, non, je continue à bosser, tout ça, dès que la petite, elle est un peu malade, ou qu'elle dit, ah, j'ai pas envie d'aller au centre, parce que, voilà, bah, elle le garde le mercredi et sans problème. Donc, il y a aussi d'essayer de déstigmatiser, j'arrive pas à dire le mot.
Ouais, déstigmatiser.
Déstigmatiser certaines choses, et ouais, être parent, c'est un de ces trucs-là. Et puis, ouais, boire de l'alcool, c'est très... Je crois que Farid, il avait un sketch là-dessus, mais je me souviens pas, où il avait... Je crois que lui, il avait pas arrêté, c'est juste qu'il boit pas du tout. Il avait fait un truc assez drôle sur pourquoi... Enfin, les gens qui lui demandent pourquoi tu bois pas et tout ça, etc. En vrai, dans la vraie vie, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Je crois que c'est devenu beaucoup plus accepté maintenant qu'on boive pas.
Ah ouais, maintenant j'ai l'impression que les jeunes là, enfin les jeunes, je dis ça comme si j'avais 40 ans au moins là. non mais j'ai l'impression que les vingtenaires, c'est plus trop leur délire quoi.
Je sais pas. Comme je suis pas dans leur monde, je sais pas.
Ouais, non, je pense qu'ils ont d'autres façons de.
Peut-être. Après ailleurs, hier, avec l'équipe, on est sorti en boîte et ça buvait quand même beaucoup.
En même temps, t'étais à la Ginette. C'est vraiment le truc. De jeunes bourges, école de commerce.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens avec des lunettes, donc je me suis senti moins awkward d'être là avec des lunettes. Mais moi, j'étais comme ça avec mon pull. Il y avait pas mal de lunettes, chemises en mode, ils sortaient du boulot. Quoi.
Ouais. Startup Nation. ouais. Classique. Mais toi, il y a une phrase qui m'a pas mal marqué dans le show, c'est quand tu dis que t'as réalisé que à un moment tu préférais ta vie pro à ta vie perso. Et je trouve ça aussi ouf de l'admettre, surtout parce que c'est un truc où si tu t'en rends compte, c'est pas pour autant que c'est évident que tu vas vouloir changer ça, tu vois.
Ouais.
Parce qu'en vrai, si tu t'amuses dans quelque chose, pourquoi tu changerais?
Ouais.
Et enfin, comment t'as pris conscience de ça? Et comment t'as réagi?
En fait, c'était un peu lié au truc d'être parent aussi. En fait, une des raisons que c'était compliqué au début, c'est parce que la petite, elle avait 9 mois quand le confinement a commencé. Et on était dans un appart de 50 mètres carrés. Et elle commençait à marcher et c'était compliqué, enfin c'était un enfer. Et moi j'ai commencé à faire des lives tous les jours sur YouTube. Et moi j'arrive pas à me pas investir dans un truc. Donc j'ai fait le live depuis ma webcam avec le micro intégré de l'ordi. Et après je me suis dit, ah, comment je peux améliorer le son? Donc là je commence à faire des recherches. Donc je passe du temps en dehors de l'heure où j'étais en direct à chercher, à faire, et je crois qu'une heure c'est devenu 2 heures, devenu 3 heures de recherche et tout ça. Et en vrai, j'étais un peu, sans le savoir, j'étais pas là pour ma femme, en vrai, qui s'occupait beaucoup de la petite. Et après, quand le confinement s'est arrêté, mais on pouvait toujours pas jouer, j'ai commencé à faire les lives depuis le bureau de ma productrice. Donc là, c'était à 40 minutes en vélo. Ou en voiture, et donc je partais au studio pour faire les lives, et donc ça a rajouté encore plus de temps. Et souvent, comme c'était en direct à 20h, je me bourrais la gueule avec la personne dans le studio, et on allait souvent jusqu'à 1h du mat en direct. Et après, le temps de fermer boutique, entre guillemets, enfin faire tout ce qu'il fallait faire sur YouTube, le titre et tout ça, des fois je rentrais à 3-4h du matin. Et donc en fait c'était le début de ça. Et ensuite quand les tournées ont recommencé, bah j'ai un peu continué avec ça, où je me suis dit, souvent en tournée il y a des dîners prévus après le spectacle ou avant. Moi j'aime pas manger avant, je sais pas si toi t'arrives à manger avant de monter sur scène, mais...
Moi en général je mange genre des noix ou ce genre de choses pour me caler, et puis après je dîne classique.
Et souvent en fait, c'est sur la première tournée, c'était organisé par le promoteur et on dînait avec lui et genre mon régisseur. Et souvent, c'était chiant parce qu'on était dans un resto vide parce qu'il était 23h et eux, ils parlaient du métier et tout ça. Et puis c'était un peu...
À un moment donné, c'est vite cafard.
Hein?
C'est vite cafard.
Ouais. Et moi, je me suis dit, je préfère faire ça avec des vrais gens qui sont pas du milieu, genre des gens qui sont venus voir le spectacle. Donc j'ai commencé à inviter tout le monde après le show au pub irlandais du coin où on pouvait boire des verres. Et j'ai fait ça une fois, deux fois, et après c'est devenu un peu l'habitude à la fin, où sauf si on devait partir le lendemain matin tôt ou un truc comme ça, j'invitais le public à boire des verres. Et une fois qu'on est dans le pub, après il est 1 heure, ça ferme, et puis nous on demande aux locaux, est-ce qu'il y a un truc après? Ouais, venez, on connaît un endroit. Des fois on s'est retrouvé, un gars qui travaille dans un restaurant, il dit bah viens au resto, on ferme, enfin c'est fermé mais on peut aller dans la cuisine et boire tous les, enfin des trucs jusqu'à 4-5 heures du matin. Et en vrai j'adorais ça, mais ouais, c'était pas, encore une fois, c'était vraiment pas cool pour ma femme, parce que je rentrais et puis j'étais éclaté, et des fois en gueule de bois sévère où je vomissais, et puis du coup je crois qu'elle, ça la saoulait, que je partais en tournée, que je m'amusais pendant qu'elle se faisait chier à la maison avec la petite qui était toujours, elle avait 2-3 ans à l'époque, et qu'en plus quand je reviens je suis complètement en gueule de bois, et donc ça l'énervait encore plus. Et ça arrivait à un moment où ça a juste explosé en septembre de l'année dernière. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'arrête de boire. J'en ai marre de perdre ma vie à être en gueule de bois toute la journée et vomir. Et aussi, je pensais que j'avais peut-être un problème, parce que je crois que j'avais passé 3 ans à boire tous les jours. Pendant le confinement avec ma femme, on descendait une bouteille et demie tous les soirs, parce que c'était tellement dur. Et après, moi, j'ai continué en tournée. Je buvais une vraie bière sur scène, donc je buvais une bière avant pour me mettre dans le mood, une bière après, donc c'était déjà 3 bières, et au moins 3 fois par semaine. Et je me suis dit, ah, j'ai peut-être un truc. Je voulais arrêter pour voir si ça me manquait. Et en vrai, 2 semaines plus tard, c'était l'anniversaire de ma femme, où j'ai pas bu pour son anniversaire. On est sortis dans un resto et puis il y avait du bon vin et des cocktails et j'ai pas bu. Et 2 semaines après, c'était mon anniversaire et j'ai dit, bah, si j'ai pas bu pour le sien, je vais pas boire pour le mien. Donc j'ai pas bu pour le mien. 1 mois plus tard, c'était nos 14 ans ensemble. Pareil, je me suis dit, ah, j'ai pas. Et en fait, une fois que tu rates des grosses occasions, après, tu te remets pas à boire un mardi soir. Avec des Heineken. Donc,
et du coup, ça te manquait?
Non.
Ah ouais?
Pas du tout. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes. Et c'était à cette époque-là où j'ai commencé à lire des interviews de Matthew Perry de Friends, qui lui avait un gros problème avec l'alcool. Et je me suis dit, putain, je suis chanceux parce que...
Ouais, lui, c'était physique.
Ouais. Bah, beaucoup de personnes, quand ils arrêtent, il y a un truc qui se passe. Moi, c'était rien du tout. Et en vrai, ça a beaucoup... Ouais, ma vie s'est améliorée. Je suis beaucoup moins fatigué. La preuve, avec 4 heures de sommeil, j'ai réussi
quand même fait un foot.
À faire un foot de 1h30. En plus, cette semaine, je fais 4 spectacles, 2 dans la même soirée hier. Enfin, c'était... Donc, je me sens plus... moins fatigué. Et la vie à la maison, ouais, c'est 1000 fois mieux, parce que je suis là. Enfin, je suis là, quand je suis pas en tournée. Là, cette année, j'étais pas beaucoup même... là. Mais quand je suis là, quoi. Je suis pas mentalement ailleurs, en train d'être... en bad.
Ouais. Mais du coup, l'alcool, c'était genre une fuite ou c'était juste fun?
Je crois que c'était les deux. C'était le fun, mais c'était le fun parce que c'était une fuite de le pas fun qu'on vivait à la maison.
Ouais, c'était à la fois la cause et la conséquence, quoi.
Ouais. C'était j'en peux plus d'être à la maison. Donc je vais sortir m'amuser. Et du coup, forcément, quand tu sors t'amuser, y a souvent, enfin, dans nos cultures, il y a des, ça implique l'alcool. Et c'est vrai que maintenant, jusqu'à minuit, ça passe. Mais après minuit, j'ai du mal à rentrer dedans parce que forcément, comme tout le monde boit, je sais pas. Déjà, je suis mal à l'aise dans les boîtes de nuit. Mais un truc, donc il me faut de l'alcool, et donc si j'ai pas, c'est un peu nul, quoi. Donc je m'amuse moins, mais je suis pas moins heureux.
Oui,
je sais pas si ça a du sens.
Ben, en soi, oui, c'est pas grave de rater ce qui se passe entre minuit et 2h du matin en général. Ouais. Il s'est rien passé de d'incroyable en vrai.
Une chanson de Ed Sheeran récemment qui s'appelle Bad Habits. Et il y a une phrase dedans où il dit « Nothing good happens after two ». Il n'y a rien qui se passe de bien après 2 heures. Et en vrai, quand je repense aux soirées que j'ai faites toute ma vie en train de boire, c'est vrai qu'après 2 heures, il n'y a rien d'intéressant. Et souvent, je ne me souvenais plus ce qui se passait.
Du coup, maintenant, tu utilises quel moyen pour quand c'est trop, tu vois? Quand c'est stressant, ok, si t'as pas ce truc de « Ok, vas-y, on se pose, on prend une bière et tout », tu la mets où ta soupe, enfin, tu vois, ta soupape? Elle est où?
Soupape, je connais pas ce mot.
En même temps, c'est pas un truc très utilisé. tu vois, c'est une sorte de petit truc en plus, tu vois, pour laisser la vapeur. Enfin, la vapeur ou d'autres trucs, en gros, je sais pas trop. Coucou, ici la Fanny du montage. Deux petites choses. Premièrement, je suis bien d'accord que c'est hyper fourbe d'utiliser le mot soupape dans une conversation avec quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle. Je suis vraiment pas sympa. Et secondement, ce que je viens de dire, en fait, ce n'est absolument pas la bonne définition du mot soupape. Mais bon, voilà. Bisous.
C'est une bonne question parce que je sais pas si j'ai trouvé un truc qui est peut-être une des raisons que cette année, avec la tournée et tout, je me sens pas forcément plus heureux en vrai que là où je sortais, je buvais tout le temps. Je sais pas, j'en ai pas vraiment. Enfin, j'en ai peut-être, mais j'ai pas. C'était tellement speed cette année que j'ai pas eu le temps de. En fait, le truc qui manque, c'est du temps seul, juste tout seul. Parce que si je suis en tournée, évidemment, je suis avec mon manager, mon régisseur, productrice, peu importe, on est toujours plus que juste moi en tournée. Et quand je rentre, bah, tout de suite, il y a la petite à la maison, il y a ma femme, on bosse ensemble. Donc, du coup, même si la petite elle est à l'école, je suis à la maison. Je sais pas, je suis jamais seul chez moi. Et donc, j'ai eu, je crois, 2 jours depuis septembre où j'étais seul. C'était une journée à Amsterdam où il y avait un jour off entre Amsterdam et Vienne. Donc moi je suis resté à Amsterdam et un jour entre Lyon et Grenoble ou un truc comme ça, donc je suis resté un jour à Lyon, donc c'était les 2 jours depuis septembre où j'étais vraiment tout seul dans ma chambre d'hôtel à comater tout seul. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Et donc, je crois que c'est ces moments-là où je devrais. Je crois que j'ai besoin de plus de moments comme ça pour sortir un peu les émotions ou le stress que j'ai.
Et t'aimes quand c'est speed? Ou est-ce que c'est juste que ça s'est mis comme ça et que...
Ouais, depuis toujours, je suis un peu... Je fonctionne bien quand il y a beaucoup de pression. À l'université et puis à l'école, c'était toujours le lendemain quand le truc, il était... quand il fallait, s'il y avait un examen ou un papier à rendre, c'était la veille que je me mettais en action. Et puis, je sais pas. Je crois que c'est un truc génétique. J'ai écouté des podcasts et des gens qui parlaient un peu de ce truc-là. Et puis, il y a vraiment... même, c'était drôle parce que j'étais voir un ostéo il y a un an, que depuis, j'ai été voir deux, trois fois. Et en trois minutes, il a cerné ma personnalité juste en me regardant dans les yeux. Et j'ai pas compris. Parce qu'il me dit, ouais, en fait...
C'était ostéo et voyante.
Ouais, c'est les deux, exactement. Ouais. Et il dit... Est-ce que je peux me permettre de vous dire quelques petits trucs? Et je dis, donc ça commence comme ça, je dis ouais. Et il me décrit totalement, il me dit, est-ce que vous aimez bien, vous fonctionnez bien sous pression? Est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que, et il me décrivait genre ma personnalité. Et je dis, ouais, c'est bizarre. Enfin, il me dit, parce que je vois dans vos yeux, les pupilles sont dilatées.
Si,
apparemment, parce que mes yeux sont plus...
C'est juste, il écoutait tes podcasts.
Alors ça, c'est possible, je sais pas, c'est possible. Mais il y avait des trucs que je dis jamais. Je me rappelle plus ce que c'était maintenant. Mais ça m'a fait flipper. Et apparemment, en regardant dans la pupille, elle est plus dilatée que la moyenne, un truc dans le genre.
Okay.
Et donc, ça veut dire que j'ai un système nerveux parasympathique.
Ok. Ici encore la famille du montage. Paul a vérifié après l'enregistrement et c'est exactement l'inverse qu'il voulait dire. C'est plutôt son système sympathique qui fonctionne beaucoup, donc celui qui est stimulé en cas de stress notamment. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous conseille plutôt de chercher sur internet ou dans des bouquins, parce que clairement la neuroscience, c'est pas trop notre domaine de prédilection, quoi.
Il m'a dit va regarder sur internet, et j'ai regardé, et effectivement il y a des gens qui ont des systèmes nerveux comme le mien qui fonctionnent un peu toujours à 100 à l'heure, où t'as du mal à te détendre et qui tu fonctionnes bien sous pression. Et donc oui, c'est pas forcément que j'aime ça, mais c'est comme ça que je fonctionne le mieux.
Okay.
Et en vrai, cette année, comme je voulais faire un an, et comme on n'a pas réussi à faire une tournée dans plusieurs pays pour le deuxième spectacle, comme on avait fait pour le premier, à cause du Covid, je voulais vraiment essayer de faire une tournée dans les pays qu'on avait visités pour le premier spectacle, mais en un an plutôt que dans trois. Et donc c'est pour ça que ça, le routing est devenu un truc un peu débile et trop. Donc,
et pourquoi t'aimes autant aller dans 20 pays différents?
C'est pas que j'aime... aussi, j'aime voyager, mais aussi les gens qui me suivent, ils me demandent... Il y a beaucoup d'expats français un peu partout dans le monde. Et eux, ils sont en manque énorme de spectacles et de trucs en live. Donc, en fait, limite là-bas, ça se passe mieux qu'en France. Parce que, un, c'est le seul spectacle français de l'année qu'ils vont voir à Canberra, en Australie. Donc, ils sont encore plus reconnaissants que t'as fait le tour du monde pour aller les voir. Mmh. Et de deux, comme c'est des expats, ben, comme moi, je suis un expat, notre vie, elle est similaire, mais à l'inverse. Donc, ouais, sur la première tournée, on avait fait Canada, enfin, les plus loin, c'était Canada, Chine et l'Australie. Et sur celle-là, on a fait plus de pays en Europe, genre Vienne, Amsterdam, Budapest et tout ça pour les expats là-bas. Et franchement, ils me demandent tous pourquoi il y a aucun Français qui vient les voir. Et je crois que c'est aussi parce que ça coûte très cher,
ouais.
Surtout devant 200 personnes, parce que c'est pas des grandes salles. Mmh. De temps en temps, il y a des grandes salles, genre à Melbourne et à...
Non, mais faut déjà les remplir, quoi. Faut déjà avoir une commu.
C'est ça. Et donc pour deux, ouais, tu joues devant 200 personnes, l'avion, l'hôtel, pour deux, trois personnes, ça, tu perds de l'argent, en fait. Mmh. Donc, en vrai, c'est sur la tournée française qu'on gagne de l'argent, et on en perd avec la tournée internationale, okay. Je crois.
Tu voulais faire quoi quand tu étais petit?
À quel âge? Parce que ça a changé.
C'est quoi qui a changé?
Au tout début, je me souviens pas trop. Mais je crois que le premier truc qui me branchait, c'était catcheur.
Pardon?
T'as vu, et le physique qui va avec.
Ah, waouh.
Ouais, je me souviens, j'avais 11, 12 ans. Et je sais pas, avec mes voisins, mes potes, enfin le catch était, je sais pas si c'était à la mode à l'époque ou pas. Je crois que ça devenait un peu à la mode, mais on regardait ça. Et puis je sais pas, je prenais les matelas du lit de ma mère parce que c'était un lit double. On le mettait dans le salon et avec mes potes, on faisait les moves de catcher quoi. C'était à l'époque où The Rock. Il était pas dans des films, il était catcheur.
Je savais même pas qu'il était catcheur à la base.
Ouais, c'était ça son truc à la base. C'est pour ça qu'il est genre collé.
Ouais, il est un peu massif quand
un
même.
Peu, hein.
Un peu, ouais.
Et c'est drôle qu'il a continué ça. Et ouais, donc lui, c'était mon idole quand j'avais 12 ans. Je crois que footballeur aussi, c'était le truc en tous les Anglais, tous les petits Anglais, un jour, mais j'étais nul. Donc, c'est mon petit frère qui a eu les gènes de foot.
T'étais jaloux un peu quand il est. Genre, voir son petit frère. Arrivé en première ligue, quid ?
Non, du tout. Parce que comme on a 12 ans de différence, ouais. Pas du tout. Et c'était plus... J'étais hyper content et hyper fier de lui. Et je me souviens, en 2014, c'est la Coupe du Monde. Et l'Angleterre, comme d'habitude, on a perdu comme des merdes dans... Je sais pas contre qui. J'étais énervé. Et on s'envoyait des textos. Alors 2014, c'était il y a 10 ans presque. Et donc j'avais 27 et lui, donc il avait 15. Et je lui avais dit, écoute, pour la prochaine Coupe du Monde, toi ton but c'est que tu vas jouer pour l'Angleterre. Et moi mon but c'est que je suis humoriste genre à temps plein parce que je travaillais toujours chez Apple à l'époque. Et c'était genre deal, let's go. Et je crois que je me rappelle plus. En 2018, ma carrière, elle avait quand même. C'était le début de l'explosion un peu de ce qui se passait. Et lui, il n'a pas réussi à jouer pour l'Angleterre. Mais il est en. Je crois qu'à ce moment-là, il était en première ligue ou pas. Bah, il jouait pour une équipe qui était en première ligue, mais il était dans l'équipe des jeunes.
Mmh. Ok.
Donc, catcheur. Voilà, je voulais devenir catcheur. Et ensuite, ça, c'est parti. Et c'était plus. Dans les films. J'ai adoré acheter les DVD pour regarder les making-of des films. Ça m'intéressait beaucoup. Je devenais un peu geek de ça. J'ai acheté un caméscope pour filmer des trucs et les monter avec genre mon VHS en cassette et tout. Enfin, c'était drôle. Et après ça, j'ai tenté de jouer à la guitare et la batterie avec des potes. On faisait. C'était à l'époque où j'habitait à Madrid. On était trois et on essaie de recréer genre Green Day.
Oh bébé.
Blink 182, I know.
Oh, petit boys band.
Exactement.
T'étais bon?
Non.
Oh.
Non. Non, du tout. Je me débrouillais, mais c'est un peu ma vie en général. Je suis pas très fort en. Mais
pas loin, mais c'est pas ça.
Exactement, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Je suis polyvalent, mais pas. En anglais, il y a une phrase que j'adore, c'est Jack of all trades, but master of fuck all. Ou master of none. D'où la série de Aziz Ansari. Ça vient de la phrase Jack of all trades, master of none. Je sais pas s'il y a un équivalent en français où genre tu sais faire plein de choses mais tu maîtrises aucune.
Je sais pas si c'est une vraie expression.
Mais on l'invente.
Ouais. Débrouillard en tout mais bon en rien. C'est genre.
Débrouillard en
quoi.
Tout, ouais. C'est pas bon en rien mais c'est genre maître de. Tu maîtrises
bon
rien.
Bon en tout mais excellent en rien.
Ouais.
Ouais.
Okay. Pas mal.
Bah désormais c'est une expression.
Voilà.
Voilà. Si ça se trouve ça existe. Quand t'as commencé le stand-up, quand t'as quitté Apple, déjà t'en étais où dans ta carrière?
Ça faisait 2 ans et demi que j'avais commencé. J'avais fait quelques scènes ouvertes à Londres longtemps avant de venir, juste avant de venir à Paris. Donc ça c'était en 2009, mais j'avais fait genre 8 scènes ouvertes. Donc je les compte pas quand que j'ai commencé. J'ai commencé en 2013 où c'était vraiment ok. J'ai envie d'essayer de voir si déjà je peux être drôle. Donc ouais, ça faisait 2 ans et demi.
Et c'était pourquoi t'as, enfin comment on ose faire ça déjà? Et est-ce que t'avais eu besoin de te mettre des objectifs clairs du style ok, il faut que dans 2 ans j'ai fait ça, 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 sinon tu reprends ton taf et t'arrêtes les conneries quoi.
Ah, tu veux dire quand j'ai quitté?
Ouais.
Je m'étais donné, avec ma femme qui à l'époque bossait dans le droit, On s'est dit, on me donnait 3 ans pour arriver quelque part. Moi, dans ma tête, c'était 1 an pour gagner de l'argent, parce que sinon, ça allait être compliqué. Mais ouais, moi, dans ma tête, c'était 1 an. Fallait que dans 1 an, je commence à gagner un peu, enfin, genre un SMIC. Je sais pas si le truc SMIC, ça existe en Belgique.
Un salaire minimum.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'était un peu l'objectif. Et comme j'aime bien ce côté pression et travailler sous pression, bah du coup, le jour où je démissionne, c'est là où je me mets à jouer tout le temps, partout que je pouvais. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits à Paris. Il y avait le Paname, qui était le comedy club sur Paris, et avec toutes les scènes, les autres scènes dans les petits bars et les trucs comme ça. Donc je faisais ça 3-4 fois par soir, quasiment 7 jours sur 7, pour essayer de travailler le spectacle. Et après, donc ça, j'ai quitté en mai 2015 et j'ai commencé le spectacle en janvier 2016. C'était au Sceaux Gymnase, dans la salle, dans le grenier. Donc j'ai fait 6 mois là-bas. Et par hasard, c'était en janvier 2016, c'est quand la vidéo de la bise, elle est sortie. Et donc l'explosion de cette vidéo-là a fait remplir la salle. Après, le truc, c'était gratuit au chapeau à la base.
Oh, la fausse bonne idée.
Ouais. Et donc du coup, c'était complet 3 mois à l'avance. Sauf que quand je suis arrivé au mois de mars... Bah, la salle était vide quasiment parce que c'était complet, mais comme ils avaient acheté leurs billets, ils avaient réservé les places et donc c'était affiché complet, mais au fur et à mesure, le public descendait parce que 3 mois plus tard, un spectacle gratuit, tu vas pas en fait.
Ouais,
donc je me retrouvais avec une salle à moitié pleine vers la fin des 3-4 mois dans le Sceaux Gymnase. Et ensuite, c'était juste après où j'ai rencontré Fanny, ma productrice, grâce à Charles Soignon. Mm-hmm. À l'époque, Fanny, elle gérait le Sentier Idéal. Et j'ai testé le spectacle sur 1 mois au Sentier. Ça s'est bien passé. Et puis après, on travaille ensemble depuis.
Ok. Je sais pas, je trouve ça fou de quitter son taf. Je trouve ça tellement... genre, tu sais quoi, là, tout va bien. Je vais me rajouter des difficultés de ouf. C'est... Ouais, non, je suis malade.
Mais toi, t'as pas quitté un boulot ? Pour faire ça?
Bah, pas vraiment. Non, parce que moi, je sortais seulement des études. Ah. Donc, très vite, j'ai. Okay. Voilà, quoi. Ou alors, c'était des trucs de pigiste, 1 ou 2 jours semaine.
Ouais, d'accord. C'était pas
donc, un truc stable. Non, j'ai jamais eu peur, tu vois. Je me suis jamais dit, putain, si ça se trouve, je mange pas le mois prochain, tu vois.
Ouais, bah, en fait, j'avais pas peur dans le sens où ça faisait 9 ans que je bossais chez eux. J'étais heureux, j'aimais bien le boulot, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver à 60 ans chez Apple et regretter d'avoir pas essayé. En fait, c'était ça la peur qui était plus de me dire, putain, et si j'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que je crois que c'est à l'époque où je lisais plein de livres un peu inspirationnels dans des boîtes comme ça, internationales. Tu fais des formations et tu lis des trucs et il y avait cette phrase... ou cette étude de quelqu'un qui avait interviewé des gens qui étaient en train de mourir, en gros, et leur demander c'était quoi leur regret dans la vie. Et la réponse la plus commune, c'était ils regrettaient pas les choses qu'ils ont fait, mais les choses qu'ils ont pas fait. C'est là la phrase de tous ces gens-là, c'est genre, j'ai regretté d'avoir pas voyagé le monde, et j'ai regretté, etc. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est... Si j'arrive à... Parce que j'aurais pu rester... je crois que toute ma carrière chez eux, c'était cool comme boîte. Et je crois que j'aurais regretté d'avoir pas essayé de faire ça. Et je suis dans cet état-là avec le côté anglais maintenant. J'ai envie de faire le truc en anglais parce que j'ai pas envie de regretter d'avoir pas essayé de faire une carrière en anglais ou juste tenter le monde anglophone en humour.
Il y a une autre phrase que tu citais, je sais plus dans quel autre podcast, c'est... si tu réalises pas tes rêves, tu vas finir par bosser par quelqu'un qui réalise les siens.
Ouais.
Je trouve ça assez ouf comme phrase.
Ouais, je l'avais mis et c'est drôle parce que je l'ai retrouvé ce truc-là et j'avais oublié. C'était les derniers mois chez Apple, j'avais pris cette phrase-là en mode background, comment on dit ça ?
Fond d'écran.
Fond d'écran de mon téléphone. Comme ça, à chaque fois que j'avais cette phrase-là.
En déverrouillant son iPhone.
C'est ça, ouais. Bah, c'était un peu le truc qui avait déclenché tout parce que quand Steve Jobs y décède en 2011, c'est là où je commence à... Enfin, je lis sa biographie et c'est là où je commence à me remettre en question parce que j'avais 24 ans à l'époque et lui, à 24 ans, il avait déjà monté la boîte pour laquelle je bossais, et j'étais là, oh, c'était, c'était un peu un truc perturbant. Et en lisant sa biographie, c'était, ouais, ça m'avait pas mal inspiré. Et je me rappelle plus où j'avais entendu cette phrase pour la première fois.
Mais toi, t'es tout le temps chamboulé par la mort de gens que tu connais pas, en fait.
Ouais, c'est bizarre.
Il y a lui, il y a la reine.
Le spectacle, il est trop long, mais à un moment donné, je parlais de lui avec la reine dans le spectacle. Okay. Du fait que ça m'avait un peu impacté aussi, bizarrement. Et les deux situations, c'était bizarre parce que tous les deux, je vis leur décès, entre guillemets, tout seul dans un hôtel. Quand Steve Jobs est décédé, j'étais en formation à Londres. J'animais une formation et j'étais tout seul à l'hôtel et c'était le soir. Je me rappelle plus, c'était genre à 23h ou un truc comme ça, heure européenne où c'était annoncé qu'il est décédé. Et donc, j'étais dans cet hôtel et je crois qu'il y avait un peu cette crise d'identité de merde, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que la boîte elle va devenir maintenant que lui il est parti. Et bizarrement, la réponse du public était pareille aussi. Pas juste moi, dans le sens où quand Steve Jobs décède, nous on comprenait pas pourquoi, mais plein d'Apple Store, tout le monde laissait des post-it, des bougies, des trucs, des post-it de remerciement d'avoir créé un truc qui a changé leur vie, etc. Et pour la reine, c'était évidemment c'était pareil, c'était comme Diana, enfin c'était encore plus où il y avait une mer de fleurs devant Buckingham Palace et tout ça pour des gens qu'on n'a jamais rencontrés en vrai, mais ça représentait quelque chose de plus profond, je sais pas quoi, mais très bizarre.
Ouais, c'était assez cool ce passage où tu parles de ce que ça touche dans ton identité sans comprendre exactement. Enfin, ouais, non, je sais pas. C'est ce truc de symbole qui est très fort ouais. Et dont on n'a pas conscience jusqu'à ce qu'il y a un symbole qui s'écroule un peu.
Ouais, c'est dur à expliquer parce que comme je disais hier, en vrai, je m'en foutais d'elle. En vrai, non, parce qu'émotionnellement, ça m'a touché, donc ça veut dire que non, je m'en foutais pas d'elle. Mais dans le concept.
Oui, ça change pas ta vie, quoi.
Non, et quand j'ai FaceTime ma mère. Elle était en pleurs aussi parce que elle est irlandaise, donc elle, en vrai, elle s'en foutait aussi. Mais je sais pas, ouais, il y avait un truc, je sais pas, c'était la fin de quelque chose, c'était, je sais pas, ouais. Moi, je crois que c'était un mélange entre Brexit qui s'est passé, qui a un peu, pour moi, c'était con et c'était un truc d'identité. En fait, c'était, je crois que c'est avec la reine qui décède, c'était genre les deux plus gros trucs de mon pays où je me sentais plus dans le pays que je me. Enfin, je reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi. Et c'est bizarre de dire ça parce que je me rappelle plus. Il y avait quelqu'un dans les actus françaises qui avait dit ça, mais par rapport à un truc raciste, quoi, parce qu'il était là. Il y a trop d'arabes en France, je reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi. Tu fais, vas-y.
Donc tu trouves qu'il y a trop d'arabes en Angleterre,
exact,
c'est ça que tu...
Exactement. Trop d'arabes, trop de chinois, trop. Il y a trop d'anglais en Angleterre.
Voilà, donc achetez vos places pour le Zénith. Quand tu fais du contenu, tu fais pas mal de trucs, tu as fait des vidéos, des podcasts, machin. Est-ce que tu fais ça parce que vraiment t'aimes ça ou est-ce que c'est parce que comme ça maintenant ça remplit les salles parce que les gens ils t'ont connu comme ça, ils te découvrent comme ça et tout?
C'est un mélange des deux. J'aime ça, mais est-ce que j'aime ça parce que ça remplit la salle? Peut-être. Dans le sens où mon truc préféré, c'est d'être sur scène, avec des gens en vrai. Mais aussi, je crois qu'il y a des choses que tu peux dire dans des vidéos qui tu peux pas forcément dire sur scène ou qui, c'est juste c'est un rythme différent que tu, sur scène, comme c'est en plan séquence. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas d'effet.
Il y a des blagues sur le montage, c'est moins marrant, quoi.
C'est ça. Et donc, c'est une autre façon de s'exprimer. Mais ouais, c'est sûr que, tu vois, quand on joue, bah, le Zénith, c'est 4200 personnes, si c'est complet. 4200 personnes en une vidéo. Enfin, tu fais une story en mode, ouais, salut, je suis là à Bruxelles. Ça fait 4000, enfin, ça fait autant de, entre guillemets, de visibilité. Donc, c'est sûr que, ça crée une visibilité énorme, surtout si t'as quelque chose qui part un peu en viral et ça a des millions de vues. Tu fais, mais c'est impossible d'avoir des millions de spectateurs à un spectacle. Donc ça touche beaucoup plus de gens et en plus, pas que dans une ville. Ça les touche un peu partout et d'où le fait que j'ai la chance de pouvoir faire cette tournée un peu partout parmi les expats. parce que du coup mon contenu il est partagé par eux aussi, donc ouais c'est sûr que c'est je dirais c'est limite 50% du boulot maintenant, c'est sur scène on a 50% et l'autre partie c'est sur les réseaux et c'est de créer une communauté qui vont ensuite acheter des places pour venir voir le spectacle en vrai.
Il y a beaucoup de choses qui te stressent encore dans ton métier.
Ouais, c'est ça qui est surprenant. Parce qu'au début, je voyais des gens qui faisaient un peu les tournées que je suis en train de faire maintenant. Et j'étais là, wow, c'est trop stylé, putain, les salles, c'est 2000 personnes, c'est incroyable, ça doit être ouf. Parce que là, quand je commençais, j'étais là, j'arrive même pas à faire rire pendant 15 minutes. Donc je sais même pas, ça doit être ouf. Et en vrai, les problèmes changent, mais je trouve que moi, je suis pas moins stressé ou moins angoissé que avant.
Ouais, c'est juste des problèmes différents, mais
ouais.
À plus grande échelle, quoi.
C'est ça. Et puis les problèmes sont différents. Et puis des fois, l'enjeu il est plus important dans le sens où maintenant que j'ai créé un truc, il y a une attente. Maintenant, quand les gens ils payent 30 balles pour venir voir le spectacle, il y a une attente. Ils ont vu des vidéos, ils ont vu le premier spectacle, ils se disent ah, est-ce que ça va être aussi bien que le deuxième, que le premier, pardon. Et donc il y a cette pression en plus artistique où tu dis putain, c'est ce que, deuxième album, est-ce qu'il va être aussi bien que le premier, troisième, pareil. Et après aussi, malheureusement, lié à l'argent, forcément, quand l'argent commence à devenir plus, bah du coup, il y a des problèmes dans tous les sens, avec des contrats, avec des promoteurs, avec des gens. Juste plus tu génères de l'argent avec une tournée, plus les gens commencent à vouloir en prendre en fait. Et des fois, c'est frustrant quand tu dis, en fait, tous ces gens-là, ils bossent grâce à moi, entre guillemets, parce que j'écris un spectacle et je monte sur scène. Et des fois, d'être le moins bien payé de tout le monde, c'est frustrant. Pas parce que j'ai envie d'être payé plus, mais parce que j'ai envie que...
Que tout soit correct, quoi.
Que la division soit équitable en termes de... Du truc, un exemple, ma captation à Londres l'année dernière... J'étais le moins bien payé. J'étais moins bien payé que le Steadicam qui a
fait. En même temps, Steadicam, c'est dur.
Steadicam, c'est très physiquement dur. Mais du coup, c'est des trucs comme ça où des fois c'est lié à des frustrations et tu fais ah il y a un truc qui va pas, je comprends pas. Et en plus, avec les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que limite on remplit nos propres salles aussi. Pas totalement, mais en grande partie. Et donc, c'est comme si une marque venait et disait tiens, tu peux faire la pub de Captain Morgan Rum. Je vois la bouteille depuis tout à l'heure, la bouteille trop stylée sur le côté. Tiens, est-ce que tu peux faire une pub là-dessus ? Forcément, bah, tu demandes de l'argent pour faire la pub de ton truc. Mais nous, on nous demande pas. Enfin, on nous donne pas de l'argent pour faire la pub pour nos propres spectacles. Sous le contexte que c'est notre propre spectacle. Oui, mais si c'était dans un monde normal, on devrait être payé pour faire tous ces contenus en ligne.
Ouais.
En vrai, si ça remplit la salle.
D'où l'intérêt d'un sponsor avec Captain Morgan dans toutes tes vidéos.
Exactly. Please buy Captain Morgan rum. It's delicious.
Pourquoi tu mets tes shows gratuits sur YouTube et pas sur... pourquoi tu les vends pas à Canal ou quoi?
Une partie parce qu'ils en veulent pas.
Ah ouais?
C'est un truc bilingue, donc ça correspond pas. C'est comme...
C'est littéralement eux qui ont produit ces deux séries.
Bah, le premier spectacle, on a réussi à avoir un truc cool où ils ont pris le spectacle pendant un an et ensuite je pouvais le mettre sur YouTube. En vrai, c'était pendant un an, mais en vrai, et c'est pour ça que je te dis les problèmes de contrat et tout le truc qui devient stressant. À la base, moi, ce que j'avais compris, c'est que je pouvais le diffuser sur YouTube un mois après la diffusion sur Canal. En gros, que le replay, tu sais, c'est les replays sur... c'est souvent 30 jours. Quand tu vas sur la télé et tu vois MyCanal.
Ouais,
exactement, c'est 30 jours. Donc, le spectacle est diffusé et 30 jours plus tard, je mets le spectacle en ligne. En 3 jours, ça fait genre 300 000 vues, je suis trop content. Et là, ils me disent, faut l'enlever parce que c'était pas du tout prévu, machin. Et moi, je suis dégoûté parce que moi, j'avais compris ça. En fait, c'était un mois après la dernière diffusion.
Ah ouais,
parce que c'était multidiffusé sur Canal, sur C Star.
Ouais.
Et il fallait attendre le, mais comme ça partait genre vraiment vite, j'étais là, tu sais, c'était un peu dans la le truc de putain. Donc je l'ai laissé quelques jours de plus.
J'ai pas vu votre mail.
Ouais. Ça les a énervés et c'était un peu le truc que j'ai brûlé les ponts un peu avec eux à cause de ça. Mais après ça s'est arrangé, j'ai continué à bosser avec eux après. Mais donc le premier oui, le deuxième. C'était juste le montant qu'ils achetaient le spectacle ne valait pas le coup par rapport à la visibilité. Mmh. Parce que si ça tombe sur Canal, forcément, t'as personne qui va regarder ça.
Ouais.
Sauf s'ils mettent de l'argent derrière, comme Paul Mirabel. Là, ils ont mis des colonnes Maurice.
Oh, mais même en vrai, il n'y a pas tellement de gens qui sont abonnés à Canal. Hein.
Non.
J'ai l'impression que déjà toute la France utilise mon compte. Donc vraiment, les gars, dégagez.
Ouais. Donc, ouais, je me suis dit, sur la deuxième capta, on a payé genre 23 000 balles pour filmer le spectacle. Mmh. Donc, c'est parce que moi, je n'ai pas été payé. Parce que j'ai fait le montage, j'ai pas été payé pour. J'ai réalisé le truc, j'ai pas été payé pour. J'ai fait les sous-titres, j'ai pas été payé pour. Bref. Mais je savais, parce que je me suis dit, Netflix sont pas intéressés, Amazon sont pas intéressés, ça je le savais. Je crois qu'il y avait Comedy Plus qui était intéressé. Mais eux, ils allaient payer genre 30 000 balles, tu vois, pour le truc. Je dis, pour 7 000 balles, je préfère perdre 7 000 balles et le mettre gratuitement.
Ouais.
Parce que ça, les 7 000 balles, on va les récupérer en billetterie.
En vendant des places,
exactement.
Ouais.
Et en plus, je crois que j'avais fait un after où je montrais les coulisses du spectacle et tout ça. Je répondais aux questions et ils s'abonnaient à mon Patreon pour ça. Et donc, en vrai, on n'a pas du tout. Je crois que sur les 23 000, je crois qu'il y a eu un tiers récupéré, quoi, en argent pub.
Okay.
C'est Google AdSense et tout le truc. Mais j'ai préféré faire ça parce que. Et pareil, pour le troisième, j'ai dit à Fanny, je m'en fous en fait, on va même pas aller chercher un diffuseur parce que. Flemme.
Du coup, il va arriver sur YouTube aussi après la tournée ?
Ouais. Je sais pas quand, mais peut-être en mars.
Ok.
À part si d'un coup là, Amazon ou Netflix sont en fait trop stylés.
On a trop d'argent cette année.
Ouais, ce qui est impossible. Mais les excuses sont débiles. Amazon, c'était genre non, on veut pas bilingue parce que on veut que du franco-français. Ou la deuxième excuse, c'était j'ai pas assez de followers, qui est une excuse de merde. Parce que en vrai. Et c'est ça, en fait, c'est débile de s'accrocher à un truc comme ça parce que, en vrai, il y a des gens qui ont 10 fois plus de followers, qui ont genre 1 million de followers sur Insta, mais qui remplissent pas des salles aussi grandes.
Et tu fais, souvent, les gens, ils confondent les métiers, quoi.
C'est ça. Et tu dis, les 150 000 que j'ai, c'est des gens qui sont vraiment intéressés et qui achètent des billets. Lorsque la personne qui a 2,5 millions, c'est pas des gens qui achètent des billets, c'est des gens qui ont 17 ans. Donc c'est débile. Je trouve ça débile de ces plateformes-là de se baser. Il a des followers, donc il va pouvoir nous ramener des abonnés. Tu fais oui, mais moi, mes 150 000, ils ont 35 ans et ils sont professionnels. Ils ont de l'oseille, frère, wesh. Donc ouais.
C'est quoi ton objectif 2025?
2025.
Ouais, comme ça je te laisse du temps, tu vois. Tu peux te reposer un petit peu, déjà pour récupérer du foot et du zénith.
2025, un spectacle en anglais, en entier. Une version anglophone pour les pays anglophones où ça parle anglophone natif. Mmh. Et une version peut-être adaptée pour les pays francophones où le niveau d'anglais il n'est pas forcément le même.
Ok. Merci Paul.
Thank you very much. Merci à toi.
J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller voir Paul Taylor sur scène. Je rappelle qu'il jouera son troisième spectacle Bisou Bye au Zénith de Paris le 6 janvier. C'est la toute dernière date. Et les deux premiers shows sont disponibles gratuitement sur YouTube. Tous les liens sont en description et j'y glisse aussi les réseaux sociaux de Paul. Et puis en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent sur les plateformes et à me suivre moi sur Instagram, @FannyRuet, pour être tenu au courant de la suite. Des bisous! Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, le somptueux, le charismatique Maxime Moitieu.
Please buy Captain Morgan Rum. It's delicious.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.